Après une semaine passée aux côtés des travailleurs indépendants, on s'intéresse aujourd'hui à l'Europe de la santé. La crise du Covid a mis en lumière les défaillances des systèmes sanitaires européens et relancé l'idée d'un plan d'action commun sur le vieux continent. Dès le mois de mai, Emmanuel Macron et Angela Merkel appelaient à construire cette Europe de la santé afin de constituer des stocks de masques et de médicaments. Alors face à la menace pandémique, faut-il en finir avec le chacun pour soi et créer une véritable politique européenne de santé publique ? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour parler de l'Europe de la santé, nous accueillons aujourd'hui Henri Bergeron, chercheur CNRS au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po, co-auteur de Covid-19, une crise organisationnelle qui vient de paraître aux presses de Sciences Po, en compagnie également de Francesca Colombo, chef de la division santé de l'OCDE, et de Karine Milsan, économiste, chercheuse au CNRS et professeure associée à l'École d'économie de Paris. Bonjour à tous les trois. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à distance. Alors commençons par dresser un premier bilan de la Covid en Europe, alors que l'OCDE a sorti un rapport hier qui tire les leçons des 10 premiers mois de crise épidémique. À ce jour, plus de 7 millions de personnes ont été contaminées et 220 000 personnes sont mortes de la Covid-19 sur le vieux continent. Quels ont été les pays les plus touchés par la pandémie, Francesca Colombo ?
Il y a plusieurs pays qui ont été touchés, la France sans doute, mais aussi l'Espagne, l'Italie, même si dans la deuxième vague, l'Italie a été touchée un peu plus en retard. Voilà, ce sont des pays qui ont été particulièrement touchés, aussi le Royaume-Uni ont été sans doute touchés, la Belgique a été particulièrement touchée.
Alors ces différents pays ont effectivement mis en place des politiques de santé face à la pandémie. On va voir un petit peu l'efficacité de ces politiques, de ces réponses apportées à la pandémie. Mais il va falloir expliquer ces différences et le fait que les pays ont été plus ou moins touchés. Selon vous, Karine Milsan, il y a deux modèles en Europe. Un modèle qui s'inspire du chancelier Bismarck et l'autre qui s'inspire de l'économiste Beveridge.
Oui, c'est ça. Ça, c'est sur l'organisation du système de soins. En fait, vous avez l'universalité de l'accès aux soins, qui est un modèle beveridgien, dont l'exemple, enfin le cœur, si on veut dire ça comme ça, c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni, matérialisé par le National Health Services (NHS), où il n'y a pas à proprement parler d'assurance santé. On a un accès avec une gratuité aux soins et un panier de soins qui est défini justement par ce NHS. Et puis de l'autre côté, vous avez un système qui est basé sur les travailleurs et qui est basé sur un accès aux soins via une assurance santé. En France, vous avez du coup la sécurité sociale qui vous donne accès à cette assurance, enfin accès aux soins, et vous êtes remboursé par la sécurité sociale. Mais vous avez eu au cours du temps, parce que ces modèles sont apparus après la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu au cours du temps en fait des glissements. Et donc ces deux modèles, qui au départ pouvaient paraître assez différents, ont fini par se rapprocher. Si l'on regarde le cas de la France, par exemple, eh bien la mise en place de la CMU, qui est
la couverture en fait, maladie universelle.
Exactement, qui est justement pour parer à l'accès aux soins des plus fragilisés, des plus en difficulté économique, mais également sociale, a rendu notre système beaucoup plus beveridgien, c'est-à-dire beaucoup plus proche du système anglais.
Et alors, quel regard est-ce que vous portez sur ce mélange, Henri Bergeron, dont parle ici Karine Milsan, entre modèle bismarckien et modèle beveridgien en France, c'est-à-dire mélange d'une logique assurantielle et d'une logique assistentielle ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de elle a souligné l'importance de la CMU. On pourrait, d'une manière générale aussi, souligner le rôle de plus en plus important de l'État dans la gestion de la sécurité sociale. C'est ce qu'on la démocratie paritaire, le fait que la sécurité sociale soit gérée par les représentants, les syndicats représentants de salariés et d'employés, n'est plus le vrai marqueur, hein, parce qu'ils ont beaucoup, leur rôle est beaucoup moins important qu'auparavant. Alors, c'est un système en France qui a longtemps été marqué par la liberté, liberté de choix, d'installation, bien sûr, pour tout ce qui est de la médecine libérale, mais aussi, bien sûr, liberté de choix pour le patient, jusqu'à ce que progressivement, on installe des mesures pour tenter de créer des trajectoires, pour tenter de créer des portes d'entrée, comme ça existe en Angleterre, et que donc le médecin référent, ben ce médecin donc que vous avez, qui quand vous le consultez en amont d'une prise en charge par des spécialistes, vous permet d'être remboursé à des taux plus intéressants, sont une façon de cadrer, de mettre un peu cette liberté sous contrôle. Il reste que le modèle français est un modèle très hybride. Hein. Vous avez à la fois dans sa gouvernance, hein, puisque nous avons une fonction publique hospitalière et puis nous avons la sécurité sociale. Donc nous avons un ministère, donc il est multicentrique dans sa gouvernance. Il est hybride aussi dans l'offre de soins, puisque vous avez des hôpitaux publics, des hôpitaux privés à but non lucratif et des cliniques privées à but lucratif.
Et toute la question,
Et
ça va
il est
être la
aussi
coordination.
hybride.
La coordination, je vous laisse poursuivre dans un instant, mais simplement je voulais peut-être entendre Karine Milsens sur cette idée peut-être qu'un modèle a fait davantage ses preuves que l'autre. Est-ce que vous diriez cela, Karine Milsens, par rapport à ces deux modèles bismarckien et beveridgien que vous nous avez expliqués?
Je ne sais pas si un modèle a fait plus ses preuves que l'autre, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que on est arrivé à la conclusion. Enfin, il y a une convergence sur l'idée qu'il faut une universalité d'accès aux soins, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser de côté les plus démunis, les plus fragiles. Ce n'est pas uniquement à travers une grille de lecture socio-économique, mais la fragilité se lie aussi à travers l'âge, à travers le vieillissement, à travers l'isolement. Et donc, il y a une sorte de consensus sur l'idée qu'il faut que toute personne, quelles que soient ses caractéristiques, ait accès aux soins. Donc, en ça, il y a une forme de convergence. Il y a aussi des formes de convergence par rapport à une structure d'offre de soins qui serait à 100% publique. On observe que même en Angleterre, par exemple, où l'offre de soins a longtemps été publique, aujourd'hui, il y a eu l'introduction d'une offre de soins privée pour des raisons diverses. L'une d'entre elles, c'est qu'en fait, le secteur public a des avantages que n'a pas le secteur privé, mais vice-versa. Le secteur privé a une rapidité de réaction par rapport à l'innovation qu'a moins le secteur public. Le secteur public inclut en France, en tous les cas, les hôpitaux publics, mais aussi les hôpitaux privés à but non lucratif. Et de l'autre côté, le public a une mission de service public que n'ont pas les hôpitaux à but, que n'ont pas les hôpitaux à but lucratif.
Quel regard peut-on poser aujourd'hui sur la gestion de la crise en France? Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la pénurie de masques a obligé les professionnels de santé au moment du premier confinement à faire avec les moyens du bord. Écoutez le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, Philippe Juvin.
Et ça, ce sont des intercalaires très simples. On a fait des trous et puis on a adapté les trous au bidule qu'on a imprimé. Et puis il n'y a que ça qui n'a pas été évidemment imprimé, l'élastique. On va chercher les élastiques et puis on coupe les élastiques et on les accroche là. On a des collègues, des médecins qui font ça et c'est évidemment très extrêmement utile. Il faut être pragmatique. Alors ben moi je préférais avoir le truc super super moderne que les Chinois semblent avoir. Ils sont, sur toutes les photos qu'on voit, les Chinois sont équipés comme des cosmonautes. Nous on fait avec. Mais ça marche. Ça signifie quand je vais examiner un patient, si il éternue, s'il crache, s'il tousse, moi je suis protégé, je l'attrape pas.
Voilà, la pénurie de masques, c'est une conséquence parmi d'autres de cette impréparation de la France que vous pointez du doigt dans votre livre Covid-19, une crise organisationnelle, Henri Bergeron.
Oui, très certainement. Alors, ce qui nous a intéressé dans le livre, ça a surtout été d'identifier, j'ai envie de dire, des causes un peu systémiques qui permettent d'expliquer pourquoi la France s'est progressivement désarmée, notamment en matière de masques. Vous m'entendez?
Je vous entends parfaitement.
Pardon. Excusez-moi. Donc on essaie de voir et on s'aperçoit effectivement qu'il y a un phénomène que nous on appelle un phénomène qui est bien identifié par la littérature de dérive organisationnelle, où toute une série de petites décisions et de dilution de la responsabilité de la gestion des stocks de masques, notamment avec la distinction entre stock tactique et stock stratégique, contribue à faire que, au moment où on doit prendre des décisions et éventuellement réfléchir aux options, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de masque et que donc l'option du confinement va progressivement être la seule option possible. Nous cherchons à retracer un peu l'histoire de ces micro-décisions qui, toutes prises une à une, permettent d'expliquer cette situation d'absence de masque. De ce point de vue-là, on peut la qualifier, cette crise, d'une crise qui n'a pas été préparée. Un point que je voudrais quand même souligner, c'est que, indépendamment des plans de préparation, la plupart des réactions qu'a pu avoir l'État, mais aussi au niveau local, on a fait beaucoup d'entretiens dans les hôpitaux, se sont faits hors des clous, se sont faits hors des plans de préparation. Le plan blanc dans les hôpitaux a été activé assez tôt, entre guillemets, mais le plan de pandémie grippale, lui, n'a pas été activé. Donc, beaucoup des réactions, que ce soit au sommet de l'État ou en bas, au niveau du terrain, à l'hôpital, ont été faites en dehors de ces questions, de ces plans de préparation. Donc, de ce point de vue-là, il y a aussi une forme d'impréparation au sens où les plans de préparation n'ont pas été activés.
Est-ce qu'on peut considérer que dans les pays où il y a une meilleure coordination entre hôpitaux et médecine de ville, la crise a pu être mieux gérée? Francesca Colombo, vous qui êtes, je le rappelle, chef de la division santé de l'OCDE, qui vient de sortir ce rapport qui tire les leçons des 10 mois de crise pandémique.
Oui, on vient de sortir un rapport, le panorama sur la santé d'Europe. Écoutez, c'est un élément, sans doute, la capacité de coordination entre des différents niveaux dans le système de santé, et surtout l'importance des soins primaires, des soins des villes d'un côté, de l'hôpital de l'autre. Cette coordination est fondamentale, surtout dans un contexte de crise où il faut vraiment agir et agir vite. Il y a quand même des facteurs de préparation qui sont assez importants. Sans doute tous les pays d'Europe, avec quelques petites exceptions, ont eu du mal à être bien préparés face à une grande pandémie. C'est une première pour les pays d'Europe, alors qu'hors d'Europe, si on regarde l'Asie, il y a eu des autres grandes pandémies dans le passé qui ont fait que certains pays étaient mieux préparés. Et donc ça passe effectivement par des procédures, des protocoles pour la gestion de pandémie, mais effectivement aussi toute la question d'avoir des marges de manœuvre en termes aussi des masques, des stockages de masques, des capacités aussi de testing qui a été un point un peu difficile au début de la pandémie, un peu dans la plupart des pays, mais y inclut la France. Voilà, alors que des autres pays, j'ai fait référence surtout à des pays comme la Corée du Sud, même la Nouvelle-Zélande, des autres, avec des systèmes beaucoup plus près en termes, effectivement, des capacités de tester, des capacités et d'avoir des matériels de protection pour que ce soit pour les professionnels, mais aussi pour les personnes aussi.
Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça du Royaume-Uni, Karine Milson, puisque on l'a dit, c'est au Royaume-Uni, le médecin généraliste est un passage obligatoire pour entrer dans le système de santé. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur la gestion de la pandémie?
C'est une bonne remarque. En fait, ce qui se passe, c'est que le système doit s'appuyer sur le médecin de ville, et c'est vrai que pour le cas de la France, c'est un élément qui a manqué. En Angleterre, en fait, le médecin ne peut pas aller, le patient, pardon, ne peut pas aller à l'hôpital sans passer par le médecin de ville, qui le réoriente ensuite vers l'hôpital. Mais il y a toute la question du dépistage. Donc, avoir une bonne coordination entre la ville et puis l'hôpital nécessite au préalable avoir une structure de test qui soit suffisante pour pouvoir bien coordonner ensuite et bien aider l'usager, le futur patient potentiel, à s'orienter dans cette, à avoir une trajectoire de soins qui soit optimale.
Est-ce qu'en France, des leçons ont été tirées du premier confinement, selon vous, Henri Bergeron? Est-ce qu'il y a une meilleure coordination aujourd'hui entre médecins de ville et hôpitaux?
Alors, c'est vrai que c'est un point important. Moi, j'avais été frappé par un éditorial d'un réanimateur médical italien. Vous savez que la réanimation italienne est très connue dans le monde entier pour sa qualité, qui disait bah, finalement, la Lombardie, elle a été victime de son nombre, de sa capacité en lit de réanimation et de sa faible articulation avec la médecine de ville, parce que en fait, ils ont admis très très vite en réanimation toutes sortes de patients qui étaient souvent dans des états, il faut dire, dégradés. Ils les ont très vite intubé parce qu'à cette époque-là, l'intubation était la recommandation. Et ils se sont vite, en fait, le système s'est vite embolisé comme ça. Là où on vénitie, où il y avait moins de lits de réanimation, eh ben, les soins primaires, et notamment la médecine générale, a contribué à réguler, j'ai envie de dire, l'entrée vers l'hôpital. Donc la coordination, elle est importante avant, elle est aussi importante à l'intérieur de l'hôpital, c'est-à-dire quand on arrive aux urgences, puis ensuite dans les services Covid, puis ensuite dans les services Covid, quand est-ce qu'on passe ou pas en réanimation, tous ces éléments de coordination sont tout à fait importants. Et à raisonner uniquement par le bout de chaîne, qui est la capacité et le nombre de lits de réanimation, c'est vrai qu'on ne voit qu'une partie de l'ensemble des étapes de la chaîne thérapeutique. Hein. Soigner, c'est une œuvre collective et c'est très important d'avoir cette chaîne dans son ensemble, dans son analyse. Alors, ce qu'on a tiré comme leçon, évidemment, au niveau du soin, je pense que ça a été souligné partout, on soigne mieux, à la fois on connaît mieux les protocoles médicamenteux qui sont efficaces, sur la cortisone, au départ vous savez que c'était controversé, mais ce n'est qu'un exemple. On intube moins, on ventile plus. Je pense qu'il y a, il y a eu beaucoup, effectivement, depuis le premier confinement, beaucoup de leçons tirées dans l'organisation de l'hôpital. La situation est tendue et difficile en ce moment, d'après les médecins qu'on consulte, essentiellement parce qu'il faut gérer en fait deux files. Il faut gérer la file active des patients qui doivent se faire traiter pour d'autres pathologie, et tout en ayant un nombre de lits toujours plus important et de lits de réanimation qui sont pris par des patients Covid.
Alors
c'est
justement,
ça qui est très difficile, le manque, c'est ça qui complique.
Parlons du manque de lits. Dans le film de Thomas Lilti, Hippocrate, les jeunes internes sont régulièrement confrontés à des dilemmes à cause du manque de lits. Écoutez.
Madame Richard, on fait quoi ?
Je sais pas, Cécile, c'en est où le dossier ?
Madame Richard, trois refus. On a relancé deux demandes en soins palliatifs, mais il n'y a rien.
Bah, évidemment. Moi, c'est ce que je disais, à un moment, elle n'a fait que s'aggraver. Maintenant, elle n'est plus transférable et ça peut prendre des mois.
Et qu'est-ce que tu proposes ?
Bah, rien, à part tricher sur son état pour qu'il apprenne en rééducation.
Non, mais vois pas. Ça, on l'a déjà fait, c'était vraiment une connerie.
Elle mange un peu ?
Un petit peu, mais ça prend du temps.
Non, elle mange pas du tout, elle est totalement dénutrie. Guy ?
Ouais.
Elle mange comment, Madame Richard ?
Très mal. Très mal, ça prend beaucoup de temps.
Voilà, donc en plus, on n'est pas à l'abri d'une fausse faute. Non, mais moi, ça fait 15 jours que je dis qu'il faut mettre une sonde gastrique.
Mais non, c'est trop invasif.
Enfin, c'est trop invasif. Si on lui met pas de sonde, on lui laisse aucune chance.
Mais de toute façon, elle remarchera pas. C'est de l'acharnement.
Bon, écoute,
ça.
Si t'as un problème avec moi, tu le dis.
Mais j'ai pas de problème avec toi, c'est juste que pour lui mettre la sonde, il faut l'attacher. C'est insupportable, ça.
Oui, mais parce que tu penses que ça me fait plaisir ? Attends, à un moment, tu penses au lit qu'elle monopolise, il y a des malades qui attendent derrière.
Ça y est, c'est... Ça y est. Change de disque, s'il te plaît.
Oh là, oh là, plus doucement, s'il vous plaît. Benjamin, tu dis rien, tu penses quoi ? T'as bien un avis ?
Ben, c'est vrai qu'elle prend un lit.
Voilà, un extrait du film Hippocrate avec Reda Kateb et Vincent Lacoste. Le manque de lits a été un facteur aggravant de la crise dans de nombreux pays d'Europe, Francesca Colombo ?
Oui et non. Je crois qu'il faut vraiment être un peu clair sur l'importance des lits. Sans doute, certains pays ont un nombre de lits assez limité. Par exemple, si on fait une comparaison entre l'Italie et la France, les nombres de lits en Italie sont nettement inférieurs, et soit c'est les lits aigus, mais aussi les lits en soins intensifs sont beaucoup moins importants par rapport à la France. Par contre, quand on parle de la réponse qu'on doit avoir, c'est assez rapide de mettre en place des nouveaux lits. Ça prend quelques semaines, bien sûr, mais c'est une chose qu'on peut faire suffisamment rapidement. Alors que beaucoup de pays, en termes de vraiment difficultés, a été en termes de personnel. Le personnel, bah, ça prend 10 ans pour former un docteur, ça prend 3 ans pour former une infirmière. Donc on peut bien avoir des lits en plus, mais s'il n'y a pas le personnel, on peut pas vraiment s'en servir. Et en Italie, notamment, même à Milan, il y avait des cas de certains hôpitaux qui ont été créés pour gérer un peu cette vague énorme des patients Covid, mais sans avoir le personnel pour pouvoir effectivement s'en occuper.
Donc, mais est-ce que c'est cette question des lits qui peut nous aider, Francesca Colombo, pardon de vous couper, mais à comprendre pourquoi on a une population plus importante en Allemagne qu'en France, et pourtant... il y a eu, du côté de l'Allemagne, 13 000 morts du Covid contre 47 000 dans l'Hexagone.
C'est pas que les lits qui en fait la question importante, c'est vraiment d'un côté de gérer vraiment les patients au niveau des soins ambulatoires, au niveau vraiment de la prise en charge des villes, cette coordination pour réduire le nombre d'afflux des patients à l'hôpital, faire sûr que ce soit vraiment que les personnes qui ont besoin des soins plus intensifs qui arrivent à l'hôpital. En Allemagne, sans doute, il y a une capacité de lits énorme, mais même dans les pics de Covid, beaucoup de ces lits n'étaient pas vraiment utilisés. Donc, je reformule la question parce que selon moi, le facteur important, c'est pas vraiment le nombre de lits en hôpitaux, mais c'est vraiment des autres capacités en termes notamment de personnel qui est assez important et gérer d'une manière plus importante tout la question de la préparation en pandémie.
Donc la question du personnel en nombre suffisant et des moyens évidemment qu'on alloue à son système de santé. Est-ce que ce qui pourrait expliquer cette différence entre la France et l'Allemagne, Henri Bergeron, c'est l'hypercentralisation dont souffrirait la France?
Alors dans quel sens, c'est-à-dire comment vous reliez la centralisation à
ce qui expliquerait le manque d'organisation et de coordination en France, serait lié peut-être à un système qui serait trop centralisé, trop vertical?
Moi, je pense que la verticalité des décisions qui ont été prises pour l'adaptation à cette pandémie, et notamment les décisions qui ont été prises, grosso modo, entre le 12 et le 17 mars 2020, est au contraire une manifestation de la volonté, ou de la tentative, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on pose, d'échapper à... un univers qui est saturé d'organisations qui ont effectivement du mal à se coordonner, voire qui sont en compétition. Alors je ne sais pas si ça trouve une traduction très concrète dans les hôpitaux, mais en tout cas sur le pilotage d'ensemble de la crise, oui, ça a été un fait marquant, effectivement.
Alors il faut voir aussi d'autres éléments pour comprendre ce qui a pu jouer dans le fait que la crise a été plus ou moins grave dans les différents pays d'Europe et dans la maîtrise de l'épidémie, la densité de population qui a pu jouer aussi, Francesca Colombo.
Oui, la densité des populations, bien sûr. Alors, il y a des facteurs qui sont un peu au-delà du contrôle du système de santé. Donc, bien sûr, si on est un pays avec une densité de population très bas, ou même une île, j'ai fait référence hors de l'Europe, à la Nouvelle-Zélande, ou même à la Corée, qui est une île de facto, parce qu'il y a la Corée du Nord, donc ils sont isolés. Donc, cet facteur, bien sûr, joue un rôle. Il faut pas non plus penser qu'ils sont les seuls facteurs. Donc, il faut pas non plus trouver ça comme une justification à ne pas avoir des systèmes qui soient suffisamment préparés et aussi suffisamment réactifs, avec une capacité effectivement de réagir vite dans un contexte d'épidémie, surtout dans un contexte comme cette épidémie où le virus est très difficile à contrôler et très très, très contagieux, avec beaucoup de cas de personnes qui sont asymptomatiques. La rapidité auquel on met en place une réponse est un facteur aussi extrêmement important. Et sous ce type de choses, effectivement, les pays qui ont fait mieux, donc comme en Europe, j'ai dit la Norvège, la Finlande ont aussi eu cette capacité de réactivité.
Et puis il faut peut-être aussi tenir compte, Karine Milsan, du facteur culturel. Toutes les populations n'ont pas le même degré de confiance envers leurs autorités.
N'ont pas le même degré de confiance. Puis au sein d'une même population, vous avez également des groupes sociaux et culturels qui peuvent réagir différemment par rapport à une décision donnée. Mais je voudrais revenir sur cette hyper-centralisation. Je pense qu'on a observé en France également une autorégulation, c'est-à-dire que les établissements de santé ont également pris le pouvoir, si je peux dire ça comme ça, pour réorganiser les soins et prendre en charge le patient en fonction de son niveau de gravité, avec des passerelles entre des soins aigus et puis des soins de suite et réadaptation, et au fur et à mesure également avec en s'appuyant davantage sur la ville, même si ça n'a pas été aussi important que ce que ça aurait pu être. Donc il y a la question du personnel, effectivement, mais il y a aussi ce lien entre la ville et l'hôpital qui peut permettre de ne pas avoir les patients qui se retrouvent tous à l'hôpital à un moment donné, mais permettre une meilleure régulation entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, qui a sûrement manqué en début de la crise, au moins pour certains pays européens, dont la France.
Alors les systèmes de santé ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre en Europe, mais ce qui est intéressant, Francesca Colombo, c'est que tous les pays européens ont mis l'accent sur le curatif et plus ou moins laissé tomber le préventif.
Oui, 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 c'est un problème sur lequel on a déjà pointé, fait attention pendant beaucoup, beaucoup des années. En fait, quand on regarde les dépenses du système de santé, on a qui en tout petit partie entre 3 et 4 ou 5% des dépenses totales de santé qui sont vraiment pour la prévention. Et c'est clair, cette épidémie le montre de manière éclatante. Les personnes qui sont les plus touchées sont des personnes vulnérables. Donc, bien sûr, il y a les facteurs de l'âge, mais même à l'intérieur des personnes les plus âgées, c'est les personnes avec des multiples maladies chroniques, de les personnes avec des facteurs de risque qui, effectivement, s'est construit au fur et à mesure des années contre lesquelles une politique de prévention est sans doute ce qu'on a à notre disposition pour pouvoir limiter cette vulnérabilité. Donc, effectivement, il y a une vulnérabilité des systèmes de santé qu'on a vu. Mais les vulnérabilités de la population, celles-là nécessitent une attention beaucoup plus forte à les politiques de prévention, de gestion des maladies chroniques, des risques aussi liés à un comportement individuel, que ce soit comment on mange, que ce soit comment on boive, que ce soit aussi l'exercice physique. Et toutes ces questions doivent être particulièrement importantes.
Henri Bergeron, sur cette question du curatif qui a été privilégié au détriment du préventif.
Oui, alors moi je suis parfaitement d'accord avec les deux interventions là qui viennent de se succéder. Bon, avec la première, j'ai effectivement, dans notre ouvrage, on a fait beaucoup d'interviews auprès des hôpitaux et on a identifié les conditions qui ont permis une coopération absolument inédite. L'une de ces premières est donc de très bien gérer, compte tenu de leurs moyens, la crise qui s'est déroulée. D'abord, effectivement, la direction des hôpitaux a entériné les décisions des médecins. Il y a eu peu de problèmes de financement. Souvenez-vous que le président de la République a dit « quoi qu'il en coûte ». Il n'y a pas eu aussi de phénomène de concurrence autour de la captation du patient qu'on voit souvent à l'intérieur des hôpitaux. Enfin, c'est vrai que la déprogrammation, qui a pu être possible grâce au plan blanc, a suspendu les enjeux professionnels. Il n'y a plus eu de compétition entre spécialités. Donc, on a vraiment une coopération extraordinaire. Sur le deuxième point, ça a été souligné par William Dabb et c'est souligné d'une manière générale par tous les acteurs de la santé publique, hein, qui ne sont pas des médecins, qu'on voit assez peu d'ailleurs, si ce n'est quelques grandes figures dans les médias, c'est quand même une défaite de la santé publique. On décide du confinement, hein, et on décide de mesures qui concernent l'ensemble de la population à partir du moment où l'épidémie n'est plus contrôlée et que les outils traditionnels de la santé publique, alors il y a les tests, les masques, mais il y a surtout les tests, ne sont plus possibles. Et en France, on a, j'ai envie de dire, péché, alors je ne connais pas assez bien la situation dans d'autres pays pour me prononcer, mais on a péché par le fait de ne pas assez d'avoir de politique proactive en termes de ciblage des populations à protéger, comme ça a été souligné juste avant. Et ça a pour conséquence de prendre des mesures massives qui, en termes de santé publique, auront des conséquences tout à fait considérables.
Et alors, est-ce que il faut imaginer que s'il y avait eu une politique commune de santé en Europe, les pays auraient été mieux armés pour répondre à cette épidémie? On va en parler dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
vacances à l'hôpital. Je ne sais si je vais mal, mais j'étais si bien sans vous. Dans les journées ensoleillées, comme je sentais tout à coup mon cœur chavirer en regardant les ombres danser et les autos circuler. Je pensais bien que j'oublierai toutes mes vacances à l'hôpital, tous les endroits où j'avais mal. Mais quand la nuit tombera, je replierai mes bras et j'aurai jusqu'au bout quelque chose de moins que vous.
Vacances à l'hôpital de Philippe Catherine sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de Francesca Colombo, chef de la division santé de l'OCDE, de l'économiste Karine Milsan et du sociologue Henri Bergeron.
Si il y a 6 mois on était allé à Bruxelles en disant « Les amis, on a une idée, on va faire l'Europe de la santé, on va harmoniser les critères face à une épidémie. » Ouais. Il y a 9 mois avant le Covid, tout le monde aurait ricané. Et vous m'auriez dit à ce micro, vous n'avez rien d'autre à faire que l'Europe de la santé, parce que ce n'était pas l'urgence. Donc, face à la crise, on renforce l'Europe sur des sujets dans lesquels elle n'avait pas de compétences. Et je crois qu'on progresse. Par rapport à aujourd'hui, il y a une augmentation du budget de l'Europe sur la santé. Il y a ce qu'on appelle aussi un mécanisme de protection civile. Ça paraît compliqué. C'est quoi ? C'est avoir des stocks communs de masques, de tests, d'équipements de protection, de respirateurs. Il y a plusieurs milliards d'euros dans le plan de relance européen pour cela. Donc, c'est plus qu'aujourd'hui en matière de santé. Et l'Europe de la santé, c'est de l'argent, mais c'est aussi ce qu'on évoquait, avoir les mêmes critères. C'est aussi, et c'est très important, on l'a fait en urgence, ça progresse vite, les vaccins. Aujourd'hui, l'Europe signe en commun, au nom des 27, des contrats avec tous les grands laboratoires publics ou privés qui cherchent les vaccins, pour que le jour où il y a un vaccin, on ait toutes les doses, plusieurs centaines de millions, pour tous les Européens, dans les premiers.
Voilà, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, sur France Inter, c'était le 17 septembre dernier. Alors la crise du Covid est-elle une opportunité pour renforcer la politique sanitaire commune ? On va en parler, mais d'abord il faut souligner que la politique sanitaire n'est pas une compétence communautaire, Karine Milsan, mais que l'Europe est tout de même amenée à prendre des mesures sanitaires, notamment à travers les normes qu'elle impose.
Oui, chaque État est souverain, donc chaque État choisit sa politique. En revanche, il y a des politiques qui sont communes, donc les États se mettent d'accord. Et à partir du moment où ils se sont mis d'accord, ils vont dans le sens de leur accord. Donc, il existait avant la crise de la Covid des agences, comme l'agence sur les médicaments. Mais là, on cherche à aller beaucoup plus loin. Malgré tout, je pense qu'il est important de dire une chose, c'est que vous m'avez interrogé tout à l'heure sur les systèmes de soins, en fait. Quand je parlais des systèmes bismarckiens et beveridgiens, j'étais sur les systèmes de soins. On privilégiait après la Seconde Guerre mondiale et ce qui est venu ensuite, on a privilégié l'accès aux soins pour tous, mais aux soins. Et la crise sanitaire nous a amené à repenser les soins vers la santé, c'est-à-dire un système qui serait orienté santé, donc qui serait un système qui nous orienterait plus vers de la prévention. Sachant que parler d'une crise préparée, c'est antinomique, parce qu'une crise, par essence, elle n'est pas préparée, elle n'est pas anticipée. On a des aléas, on peut se préparer contre la probabilité, contre l'éventualité d'un événement. Mais on ne connaît pas l'événement, donc on ne peut pas se préparer pour l'événement. Donc, on est en train de construire, les idées qui sortent avec ce système de santé, c'est se préparer pas pour des événements, mais pour la probabilité d'événements.
Est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle qu'il existe déjà partiellement une politique européenne de la santé, puisque l'Europe dispose d'un centre européen de prévention et de contrôle des maladies basé à Stockholm et créé en 2004 en réponse à l'épidémie du SRAS? Est-ce que vous considérez, Henri Bergeron, qu'on a déjà une esquisse de politique européenne de la santé?
Oui, alors je vais encore une fois être d'accord avec ce qui vient d'être dit, qui me paraît très important. Je pense que les bases juridiques sur lesquelles on peut adopter des instruments contraignants forçant à la convergence des politiques nationales sont essentiellement des bases juridiques concernant la santé publique, la prévention, l'échange de bonnes pratiques, l'information, un peu la contribution à la recherche, mais en aucun cas... C'était dit, les États sont souverains, en aucun cas l'Europe ne peut passer d'instruments contraignants sur base juridique santé publique telle qu'elle est définie dans les traités pour forcer les États membres à faire converger leur système de soins. Donc l'essentiel de ce qui s'est développé sur le système de soins, ce sont en fait des conséquences d'adoption d'instruments législatifs contraignants européens, par exemple des directives qui ont été prises au motif, par exemple, non pas de la santé ou de la santé publique, mais par exemple de la réalisation du marché commun et de l'épanouissement des quatre libertés de circulation des services, des individus, etc. Donc par exemple, effectivement, on peut avoir des soins dans un autre pays, ça c'est quelque chose qui est décidé par l'Europe, mais sur une base juridique qui n'est pas celle de la santé publique.
Mais ce centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui a été créé, est-ce qu'il a servi dans cette crise épidémique, Henri Bergeron?
Alors, moi, ce sont essentiellement des agences de santé publique et beaucoup des institutions productrices de guides de bonnes pratiques et d'indicateurs. Ce centre, moi, j'ai tout de suite téléphoné à mes collègues et amis qui se trouvent à la direction de la santé publique, la SANCO, la santé communautaire, à Luxembourg et à Bruxelles, parce qu'elle est divisée en deux. Déjà, c'est un nombre d'agents pas très important, et tous m'ont dit qu'ils étaient parfaitement dépassés, y compris l'agence de Stockholm, qui n'a pas du tout réussi, on l'a bien vu, à coordonner les réponses de santé publique des différents États membres.
Donc c'est une question de manque de moyens, parce qu'effectivement il y a 300 agents dans cette agence à Stockholm, contre 9000 pour son équivalent américain qui est basé à Atlanta.
Oui, alors, et puis elles n'ont pas du tout les mêmes prérogatives. Le CDC américain a un système d'information, a aussi, pas comme la FDA, comme l'agence sur les médicaments, n'a pas ce pouvoir contraignant, mais il est beaucoup mieux équipé à la fois nationalement et localement, et peut décréter prendre des décisions qui sont des décisions relativement contraignante, même si les États fédérés restent souverains. L'agence de Stockholm construit un système de surveillance épidémiologique, elle peut contribuer à uniformiser les indicateurs, elle peut produire des guides de bonne pratique sur la bonne gestion de crise, la bonne gestion de pandémie, mais elle n'a pas ce pouvoir contraignant.
Alors ces agences européennes, Francesca Colombo, n'étaient pas calibrées pour répondre à une crise comme celle que l'on a traversée, que l'on traverse encore, Francesca Colombo?
Oui, tout à fait. Cette crise est un peu un révélateur de certaines faiblesses, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, européen, mais aussi plus globalement, auxquelles il faut faire face. Donc il y a toute une discussion qui est en cours, et en cours bien sûr en Europe, en termes de renforcer cette Union européenne pour la santé dans des différents domaines, donc dans le point de vue de la sécurité sanitaire, du rôle de cette agence, la SCDC, mais aussi le rôle de l'EMA, de la agence pour les médicaments, toute une réflexion qui est en cours au niveau européen. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des discussions aussi en cours au niveau aussi global, international, en termes de réformer, réviser les régulations internationales sur la santé, pour effectivement être mieux préparé en général. Donc c'est juste qu'il y a cette réflexion, c'est bien qu'il y ait un renforcement du rôle de l'Europe, parce que quand on parle de santé, on parle pas que des soins individuels, mais on parle aussi effectivement des maladies transmissibles. On parle des questions qui sont pas strictement nationales. On parle des menaces qui peuvent venir aussi au-delà des frontières. Et il y a toutes des questions qui doivent être débattues et résolues aussi en niveau tout petit peu plus global.
Alors justement, la Commission européenne a proposé au mois de mai un nouveau programme pour la santé, EU for Health. Écoutez la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le 16 septembre, lors de son premier discours sur l'état de l'Union devant les députés européens.
So for me, it is crystal clear.
Donc pour moi, c'est limpide. Nous devons créer une Union européenne de la santé plus forte. Le moment est venu de le faire. Pour commencer à faire de cette idée une réalité, nous devons tirer les premières leçons de cette crise sanitaire. Il faut que notre programme EU for Health soit à l'épreuve du futur. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé de renforcer le financement de ce programme et je suis ravi que le Parlement soit disposé à se battre.
À se battre, oui, parce que ce plan d'action a été approuvé par les députés européens vendredi dernier et il devrait être doté d'un budget de 5,1 milliards d'euros. C'est un projet qui est véritablement ambitieux, Karine Milsan.
Je pense que c'est un pas en avant important. Quand on fait une comparaison avec l'Europe et les États-Unis, et ça peut être trivial, mais je pense qu'il faut le dire, on n'a pas à élire un président de l'Union européenne. Or, aux États-Unis, vous avez un président américain. Ça semble stupide, mais ça a des conséquences excessivement importantes quand vous parlez de politique de la santé, quand vous parlez d'une Union européenne de la santé. Parce que ça implique une uniformisation, des décisions qui doivent être prises et des accords suffisamment unanimes pour que l'ensemble des pays puissent porter le projet et puissent aller dans le sens de ce projet. Donc on est là avec 5 milliards d'euros sur 7 ans, avec des axes qui ont été clairement établis, tels que la mutualisation de commandes de vaccins et de médicaments, tels que la constitution des réserves d'urgence, la création d'une agence pour la recherche biomédicale, qui sont des éléments excessivement bâtisseurs pour aller dans le sens de un système européen de la santé. Oui.
Mais alors effectivement, il faut bien préciser que c'est pas une politique européenne de la santé, mais des outils pour mieux coordonner les politiques nationales.
Et... Chaque pays est souverain. Chaque voilà. pays reste souverain. C'est vraiment. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais, je répétais une chose qui semble évidente, mais on n'élit pas un président de l'Union européenne et donc à partir de là, chaque pays est souverain, chaque pays met en place les outils qu'il désire mettre en place pour la population, pour sa population. Et donc là où c'est vraiment un pas en avant, c'est qu'on considère qu'en fait il y a un socle commun, c'est-à-dire qu'il y a des besoins communs à l'ensemble des pays européens. Et à partir du moment où ces besoins sont identiques pour l'ensemble des pays européens, eh bien, on peut mettre en place une politique qui sera commune.
Améliorer la coordination en Europe en matière de testing et de traçage, notamment. Ça, c'est une bonne idée pour vous, Henri Bergeron?
Oui, oui. Voilà, moi, je ne crois pas du tout à l'Union européenne des systèmes de soins. Il n'y aura pas convergence. On a déjà nous-mêmes du mal à notre niveau à transformer le système de soins. Des gens comme Alain Juppé le savent à leurs dépens, que je ne vois pas du tout le niveau européen. De toute façon, il n'a pas les bases juridiques pour ça. Mais comme ça a été dit, une Europe de la santé publique qui met en commun un certain nombre d'instruments qui sont des instruments nécessaires au pilotage et à la formation de politiques de santé publique, donc bien sûr des tests, bien sûr les médicaments. Alors sur le marché des médicaments, on a quand même un rôle de l'Agence européenne du médicament qui est quand même assez, qui est très contraignant, qui est très important, hein, et qui, vous savez qu'il y a une procédure commune, hein, d'autorisation de mise sur le marché. Mais sur les autres aspects, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de progrès à faire.
Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur le médicament, Henri Bergeron, parce que c'est intéressant, effectivement, cette agence du médicament, Francesca Colombo, c'est l'une des plus anciennes structure qui a été mise en place en Europe.
Oui, c'est une structure qui existe depuis longtemps, mais qui a des compétences qui, dans les contextes actuels, on se rend compte qu'elles peuvent être renforcées. Donc, par exemple, toute la question effectivement des évaluations des nouveaux médicaments, ça, bien sûr, c'est l'EMA qui a fait, l'agence pour les médicaments, mais toutes les questions de surveillance, par exemple, des risques de pénurie des médicaments qui sont considérés comme critiques, par exemple. Tout ça n'était pas quelque chose qui est fait d'une manière systématiquement par l'agence. Donc, il y a des nouveaux questions, des nouveaux défis, des nouveaux qui cette pandémie a mis bien en évidence, sur lesquels il faut renforcer les rôles des agences comme l'agence européen des médicaments.
Alors, qu'est-ce qui est proposé concrètement? C'est de constituer des réserves d'urgence, l'idée aussi d'une pharmacie européenne qui pourrait stocker des médicaments essentiels et des vaccins. Et puis, il y a aussi cette idée, Karine Milsan, de diversifier les sources d'approvisionnement pour ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Ça, c'est le grand enseignement de cette pandémie.
Oui, alors on dépendait pas d'un seul fournisseur dans le sens laboratoire. On dépendait de pays. Enfin, pour les parties principes actifs, on dépendait principalement de la Chine. Et le principe actif, c'est le cœur du médicament, si vous voulez, et puis l'enrobage plutôt de l'Inde. Il me semble qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas encore question d'imaginer la création de principes actifs au niveau européen. Enfin,
de diversifier, en revanche, ses sources d'approvisionnement, de pouvoir s'approvisionner auprès de d'autres pays pour que si jamais une chaîne d'approvisionnement est amenée à se rompre, on a vu les difficultés, les nœuds qui pouvaient se créer dans ces chaînes, et c'est ce qui a entraîné ces pénuries.
Avoir des réserves d'urgence, c'est-à-dire avoir une réserve d'urgence au niveau européen, ce n'est pas la même chose qu'avoir une réserve d'urgence au niveau de chacun des États. Et puis, ce qui a été dit précédemment, effectivement, au niveau d'un État, quand on a des réserves, eh bien, il peut toujours y avoir des dérives organisationnelles. Lorsque c'est au niveau de l'Union européenne, on peut se dire que ces stocks seront plus pérennes, resteront de façon pérenne dans le temps. Chaque État subit des contraintes budgétaires, donc malgré une politique de prévention, les contraintes budgétaires qui viennent s'associer à ces politiques de prévention fait que ces stocks peuvent être amenés à être amenuis. On peut se dire que si c'est géré au niveau européen, la pression pour dévoyer l'organisation de ces stocks sera moindre. Donc, on sera plus à même de répondre en cas d'une crise grâce à ces réserves.
Francesca Colombo, est-ce qu'il faudrait créer un Airbus du médicament? C'est ce que on peut entendre, de plus en plus de voix s'élèvent en faveur d'une meilleure coopération industrielle en Europe.
Oui, sans doute meilleure coopération industrielle en Europe. C'est en Europe, et je souligne le fait que cette problématique aussi de la chaîne d'approvisionnement, c'est une problématique globale. Donc, on ne résout pas les problèmes simplement en disant on fait les choses qu'en Europe. Il faut tenir en compte aussi les mécanismes de production et distribution actuels des médicaments ou des autres produits essentiels en santé. Donc, sans doute, la question, c'est comment réduire les vulnérabilités en termes de diversification, mais aussi de la production, bien sûr. Donc, c'est une question de diversification de la production, diversification des sources d'approvisionnement, avoir des systèmes aussi d'information qui permettent d'une manière beaucoup plus rapide de comprendre là où il y a des risques de pénurie pour être en mesure d'agir d'une manière plus efficace, et peut-être aussi une meilleure coordination en termes de politiques de commerce international, parce que s'il y a des décisions qui se sont faites d'une manière unilatérale en termes de réduire les commerces parce qu'on craint une pénurie chez soi, alors qu'on est dans un contexte de pandémie où tous les pays sont concernés, dans ces contextes-là, une meilleure coordination aussi des politiques de commerce sont importants pour réduire les risques pour tout le monde et maximiser le bien-être pour tout le monde.
Henri Bergeron, sur ces mesures, ces stocks, cette diversification des sources d'approvisionnement, ces mesures qui visent finalement à ce que l'Europe retrouve sa souveraineté sanitaire.
Oui, je crois que ça a été très bien expliqué encore une fois. Je parle souvent en dernier pour dire que vos deux interlocutrices disent des choses importantes. Il y a effectivement une gestion consolidée, par exemple, de masques, hein, pour pouvoir distribuer aux pays qui en ont le plus besoin, plutôt que ce soit la foire d'empoigne entre les États. On voit bien les effets positifs que cela pourrait contribuer à produire. Il y a aussi toute la question de la régulation des dispositifs médicaux, hein, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, les dispositifs médicaux. Ça va de la prothèse en passant par l'intelligence artificielle. Ça va devenir aussi des enjeux qui sont des enjeux importants, peut-être à discuter de façon plus serrée au niveau européen. Il va y avoir des gros enjeux, et là, je serais intéressé de voir un peu comment ça va se passer sur les autorisations de mise sur le marché des différents vaccins. Est-ce que le vaccin Sputnik russe ou chinois, comment est-ce que l'Europe n'a pas intérêt à être forte? Alors, forte pour une question de sécurité sanitaire, comme vous l'avez dit, mais aussi de sécurité ou d'enjeux économiques. Je rappelle que l'Agence du médicament européenne, elle a été créée en 92 et que l'agence française, en tout cas le premier projet qui a été conçu par Jérôme Cahuzac dans le cabinet de Claude Évin en 1991, c'était au départ de créer une agence, parce que l'agence française a été créée après l'agence européenne. Avant, c'était la pharmacie, un département de pharmacie du ministère de la Santé. C'était pour des enjeux économiques et pour être sûr que la France garderait une industrie pharmaceutique assez forte. Donc ces deux enjeux sont très liés et il y a certainement à réfléchir sur le renforcement du rôle européen sur ces questions de régulation du marché des médicaments et des dispositifs médicaux.
Alors la Commission européenne prévoit de créer une agence de recherche et de développement de biomédicaux avancés. Alors le but, c'est d'encourager les partenariats publics-privés afin d'accélérer par exemple la recherche d'un vaccin. Ça vous paraît aller dans le bon sens, Karine Milsan?
Oui, enfin, je veux dire, on ne peut pas ne pas penser que ça va dans le bon sens. Il faut savoir que l'Europe se distingue des États-Unis parce qu'on a une politique de régulation du prix des médicaments et des consommables médicaux. Et des vaccins, ça inclut évidemment le vaccin, les vaccins. Donc avoir une politique de régulation qui n'est pas une politique au niveau des États, mais qui est peut-être une politique au niveau européen, a forcément plus de poids, puisque vous allez négocier le prix, non pas pour uniquement votre État, mais pour l'ensemble des États pour lesquels vous êtes le représentant. Donc, c'est pas totalement nouveau, puisque l'EMA avait déjà cette fonction partiellement pour certains types très précis de médicaments, mais pour le vaccin, ça donnera effectivement un poids plus important dans les négociations à venir.
Francesca Colombo, sur cette agence qui permettrait de créer des partenariats publics-privés dans le domaine de la santé, ça permettrait à l'Europe de développer encore cette industrie pharmaceutique qui est une puissance, enfin en tout cas qui relève de la puissance économique et qui est particulièrement importante.
Oui, sans doute, ça c'est un facteur important. Une agence de tel type, si on regarde à les fonctions aussi de l'agence BARDA, donc des États-Unis, c'est aussi vraiment de supporter la translation, si on veut, de la recherche d'un côté, donc tous ceux qui vont dans la recherche de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins et tout ça, mais vraiment juste à la considération de la mise en œuvre et toute la question de développement et après d'approbation. Donc vraiment, c'est une question de faciliter cette translation entre la recherche pure et vraiment le développement avancé des outils, donc des vaccins, des médicaments, aussi des traitements, des diagnostics, qui sont utiles dans un contexte de menaces. Une menace qui peut être une menace biologique, peut être aussi une menace radiologique ou nucléaire ou chimique. Donc ça, c'est vraiment le but de cette agence, d'aider accélérer effectivement cette production et le développement de cette des vaccins, des médicaments, des diagnostics pour améliorer la sécurité.
Alors, on a vu que cette Europe de la santé permettrait à l'Europe de retrouver sa souveraineté sanitaire. Ce serait, elle comporte aussi un certain nombre d'avantages industriels, économiques. Mais est-ce qu'elle permettra de réduire les inégalités en matière d'accès aux soins, Henri Bergeron?
Alors, d'accès aux soins, comme on l'a précisé plusieurs fois jusqu'à maintenant, les transformations suite à une réglementation européenne des systèmes de soins n'étaient pas fondées sur des bases juridiques de santé, donc n'avaient pas pour objectif à proprement parler de s'attaquer à l'accès aux soins, si ce n'est pour un voyageur ou ce genre pour la circulation des individus sur le territoire. Moi, je pense que c'est un thème très à la mode. Je pense que c'est un thème qui se résout essentiellement au niveau local, dans des politiques qui sont locales pour effectivement améliorer l'accès aux soins. Ça peut se faire au niveau national en termes de financement et de couverture, comme ça l'a été en France avec la CMU. Je vois pas l'Union européenne, si ce n'est par des politiques de prévention ciblées, par exemple dans la lutte contre le tabac ou contre l'obésité et le surpoids, en s'adressant à des cibles particulièrement vulnérables, j'ai un peu du mal à voir comment l'Union européenne pourrait agir contre les inégalités d'accès aux soins, à proprement parler aux soins.
Karine Milsand.
Je pense que c'est une excellente question, puisque la crise sanitaire a fait ressortir les déterminants sociaux en fait, de la santé. Mais ce n'est pas un point qui a largement émergé dans les dernières déclarations. Alors est-ce que c'est parce que ce n'est pas de la compétence de l'Union européenne comme ce qui vient d'être dit? C'est possible. Malgré tout, il y a des éléments qui sont communs à l'ensemble des pays européens. Donc on pourrait imaginer que même sans avoir un programme, enfin une agence spécifique sur ces questions, avoir des réflexions communes sur ces questions pourrait être intéressant. Je pense qu'en fait, dans les mesures pour lutter contre la maladie du Covid, il y a des contradictions, ça vient en opposition avec d'autres mesures de santé publique, telles que, par exemple, quand vous êtes dans une situation de confinement, eh bien, vous avez moins possibilité d'avoir une activité sportive. Vous êtes dans une situation de lien social plus distendu, même si il y a des moyens que distanciels, ce n'est pas la même chose. Vous avez des addictions, notamment pour les jeunes avec les jeux. Donc vous avez en fait un mélange assez complexe entre la crise sanitaire, sa réponse, et puis les déterminants sociaux qui viennent s'y mêler.
Il y a en tout cas un espoir important que cette Europe de la santé permette une meilleure coopération et une lutte véritable contre le coronavirus et contre cette épidémie qui dure. Un immense merci à tous les trois, Francesca Colombo, Karine Milsand, Henri Bergeron, de nous avoir accompagnés tout au long de cette discussion. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Henri Bergeron, Covid, une crise organisationnelle. Il y a trois co-auteurs. Il vient de paraître donc aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup à tous les trois. C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin, Mathilde Tonfourcade et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne Depelchin. À la technique aujourd'hui, Alex Dang. La semaine prochaine, nouvelle série consacrée à la grande pauvreté et aux moyens de l'éradiquer. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.